Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, versets 1 à 6. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de Liturée et du territoire de Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Voilà, nous sommes donc avec cette lecture du jour dans l'Évangile de Luc. Dans les deux premiers chapitres, nous avons ce qu'on appelle en général l'Évangile de l'enfance, qui se referme donc à la fin du chapitre 2, pour s'ouvrir avec le chapitre 3, 30 ans plus tard, sur l'inauguration du ministère de Jésus, avec la figure de Jean-Baptiste, qui est là comme sentinelle à l'entrée de l'Évangile. Comme une charnière, si vous voulez, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre le régime de la loi et celui de la grâce. Et cette entrée en scène de Jean est inscrite ici de manière précise, solennelle, dans l'histoire du pays d'Israël. On voit que Luc tient à marquer ce grand événement dans le cadre de son temps, et de là donc toutes ces données chronologiques si précises que nous avons dans les premiers versets. D'ailleurs, ce matin, ce que je vous propose, c'est d'avancer pas à pas, verset par verset, dans notre texte, et vous prendrez ce qui vous convient le long du chemin. Luc, donc, commence par la description du contexte historique, et ça fait là comme un peu comme un effet de caméra, comme un effet de zoom. On part sur un plan large et très général pour se rapprocher de l'événement. On voit que son regard se porte d'abord sur l'Empire romain, sur les différentes parties de la Terre Sainte après, et des pays qui environnent la Terre Sainte, pour après se focaliser sur les autorités du peuple juif. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère tétrarque de Liturée, le territoire de la Traconite, et Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Zacharie dans le désert. Vous voyez ce mouvement-là ? Voici donc l'intervention décisive de Dieu dans l'histoire des hommes. Ce qui montre d'entrée que l'action de Dieu n'est pas en dehors du monde, loin, quelque part, dans les nuages, dans l'espace ou à l'autre bout de l'univers, mais elle se déroule ici et maintenant, discrète, cachée, à l'intérieur même des événements profanes de notre monde et de notre histoire. D'ailleurs, les Anglais disent History is history. C'est une manière de voir. Il semblerait que l'histoire sainte, donc, se déploie au cœur même des événements mondiaux. Mais je me suis posé la question, peut-on encore croire, comme Luc, que Dieu parle et agit dans notre histoire ? Dans le tissu des circonstances et des situations qui sont les nôtres, dans nos situations économiques, politiques, sociales, politique, familiale, culturelle. Est-ce que Dieu peut s'y impliquer, peut changer les choses ? Croyons-nous que Dieu, d'une manière ou d'une autre, peut influencer les grandes décisions de notre monde ? Par exemple, on aura la COP27 dans un an à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Est-ce que les grandes décisions qui seront prises là pour la planète peuvent être influencées par Dieu ? Si c'est le cas, nous savons bien que cette influence passe par les hommes et les femmes de notre temps qui sont plus ou moins engagés pour faire changer les choses. Si influence il y a, c'est par là qu'elle passe. La 15e année du règne de Tibère César. Alors Luc avait pris soin déjà de nous dire que Jésus était né sous César Auguste, et là il nous dit maintenant qu'il commence son ministère comme adulte, la 15e année du règne de Tibère César, c'est-à-dire l'an 28 de notre ère. Jésus, un homme juif, inconnu de tous, face au tout-puissant empereur de Rome, face au maître du monde. À ce moment-là, il faut réaliser que l'empire de Tibère, ça partait de la mer du Nord. D'ailleurs, je ne sais pas si avec vous, quelques-uns étaient venus à Rochester, mais on voit des murailles romaines, là où on était dans le jardin où on passait notre après-midi. Il y avait des murailles romaines qui passaient, et ces murailles, elles montent vraiment encore très très haut. Et ça descend jusqu'aux dunes du Sahara, ça part du détroit de Gibraltar d'un côté, et ça part aux confins de l'Asie. C'était ça, l'empire de Tibère. C'est-à-dire que la Méditerranée, qui est aujourd'hui entourée par une quinzaine d'États différents, à l'époque, c'était juste un énorme lac romain. Il faut le voir comme ça. Alors peut-être d'ailleurs que tout le propos de Luc, c'est de nous montrer que la bonne nouvelle doit partir quelque part de Jérusalem et aller jusqu'à Rome. C'est peut-être l'idée. Mais pour le moment, en tout cas, il évoque l'ampleur du projet divin, et ce qu'il nous dit, c'est que Jésus, un inconnu, arrive en l'an 28, en plein milieu de l'Empire romain. Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que cette personne, Ponce Pilate, c'est le seul humain, avec Marie, qui a pris place dans le credo. Vous savez que vous avez en dernière page, en couverture de votre cantique, c'est le seul qui soit cité. On nous dit que Jésus, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Alors voilà peut-être un résumé d'ordre chronologique de la présentation de Luc. Alors je passe sur le personnage de Pilate, sur lequel on pourrait rester un bon moment, peut-être j'y reviendrai encore un tout petit peu. Hérode, étant prince de la Galilée, son frère Philippe, prince de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias étant prince de l'Abilène. Tous ces gens que nous croisons quelquefois dans notre lecture du Nouveau Testament n'ont pas grand pouvoir. Ce ne sont que des vassaux, fantoches, des collaborateurs du vrai pouvoir qui, lui, est à Rome. Mais je pense que ici Luc balise, il souligne surtout l'espace géographique dans lequel l'Évangile va se déployer, dans lequel l'Évangile va se dire et se répandre. Et il prend soin pour ça de noter deux provinces qui sont peuplées de fils d'Israël, la Judée et la Galilée, et puis il va citer deux provinces qui sont peuplées de païens, l'Iturée et Abilène. Sans doute, peut-être là, on peut y voir une petite indication théologique, parce que pour Luc, le message de Jésus donc n'est pas réservé à quelques-uns. Il n'est pas réservé à certains. C'est ce qui va se déployer après, bien sûr, avec les Actes des Apôtres. Une indication, en tout cas, qui pourrait aussi nous dire, nous, de bien veiller à ne pas nous enfermer dans un bon petit club protestant, avec seulement des gens qui nous ressemblent. Parce que si c'est le cas, alors nous ne sommes plus du tout dans l'esprit de l'Évangile. Nous ne sommes plus dans le souffle évangélique. C'était du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Ça y est, on est à Jérusalem. Et après les chefs politiques, maintenant on a les chefs religieux, les responsables du judaïsme de l'époque, que Jésus va retrouver quelques années plus tard. Voilà donc quelle était la conjecture historique et religieuses de l'époque de Jésus, et ces données sont exactes. Elles ont été confirmées par des historiens de l'époque, des historiens de l'Antiquité, comme Philon ou Flavius Joseph, qui citent, on entend ces noms-là sont cités aussi, et non seulement par les historiens, mais aussi par l'archéologie. En 61, on a découvert à Césarée, en Israël, on a découvert l'endroit où Pilate allait au théâtre, et il avait sa place réservée, un peu comme dans certains temples, il y avait des noms qui étaient écrits, peut-être pour les grands donateurs ou que sais-je. Eh bien là, il y avait l'espace de Pilate, son siège, et on a retrouvé cette plaque. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher « Inscription de Pilate », je crois, en français, ou « Pilate Stone » en anglais. Vous tapez ça et vous la verrez avec l'inscription qui est dessus. Et c'est assez intéressant. Bref, ça a été confirmé là aussi. Alors je vous propose de ne pas nous arrêter plus longtemps comme ça sur les informations historiques, mais rappelons-nous juste que lorsque Luc écrit, lorsqu'il rédige son évangile, il pense à Théophile, son correspondant. Et celui-ci peut donc vérifier que la catéchèse reçue porte sur des faits et des événements réels qui se sont bien produits à une époque et dans un lieu spécifique. Luc nous dit « Noël, ce n'est pas juste une belle histoire ou un mythe, Dieu a bien fait irruption dans la vie réelle des hommes. Voilà où et quand. » En ces jours-là, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Mais en fait, ce ne sont pas tous ces notables qui viennent d'être nommés qui vont faire la véritable histoire, mais voilà un porte-parole, un prophète, comme Israël n'en avait pas vu depuis 400 ans, parce que pour rappel, entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier du Nouveau, on a 400 ans de silence, où Dieu ne s'est pas exprimé. Et encore une parenthèse dans la parenthèse, dans nos Bibles catholiques, la Bible de Jérusalem par exemple, il y a quelques livres en plus qui nous parlent de cette période des 400 ans. Il y a 6 livres en plus que dans nos Bibles protestantes. Donc si ça vous intéresse d'aller découvrir un peu l'histoire de ce qui s'est passé pendant ces 400 ans, vous pouvez prendre une Bible catholique et aller vérifier. Je me perds dans mes parenthèses. Voilà, donc bref, Jean-Baptiste, c'est cette charnière, ce dernier prophète de l'Ancien Testament et ce nouveau, ce premier témoin du Christ. C'est une parole qui vient d'ailleurs de Dieu, qui va créer le véritable changement, cette nouveauté qui va changer même le cours de l'histoire. Et cette parole, si importante, elle est donnée dans le désert. Alors, est-ce que dans nos déserts à nous, nous nous laissons saisir, comme Jean-Baptiste, par la parole de Dieu ? Parce que c'est vrai que nous avons parfois, selon les circonstances de nos vies, une impression de désert et de vide. Mais cette solitude éprouvante doit-elle toujours être considérée comme quelque chose de négatif ? Comme quelque chose à redouter, comme quelque chose à combattre? Eh bien, pas forcément. En fait, la Bible nous enseignerait plutôt le contraire. Parce que si on repense à ces grands hommes de la foi, de l'histoire biblique, comme, je ne sais pas, Abraham, Moïse, Élie, où ont-ils reçu la révélation de Dieu? Où ont-ils entendu la parole de Dieu? Dans le désert. Alors peut-être que quand je traverse le désert, c'est là que je suis le plus à même de recevoir, d'entendre cette parole que Dieu m'adresse. Bref, ne craignons pas nos déserts, ne les redoutons pas, ne redoutons pas nos moments de solitude. Et il parcourut toute la région du Jourdain. Oui, la parole de Dieu, ça bouge, hein, c'est dynamique, c'est en mouvement, en permanence. Jean est un prédicateur itinérant. Et Jésus, après lui, sera aussi un prédicateur itinérant. Et nous, bougeons-nous avec la Bible? Bougeons-nous avec cette parole qui nous habite? Ou bien la gardons-nous enfermée dans nos églises, dans nos familles, dans nos études bibliques, que sais-je? Si seulement on pouvait prendre conscience, ne serait-ce qu'un instant et un tout petit peu, de la soif de tous ceux du dehors. Soif spirituelle, d'ailleurs, qui ne savent pas toujours repérer, c'est un peu la confusion. Il y en a tant qui ont du mal à identifier la nature de leur soif, et du coup, ils croient pouvoir l'étancher en rencontrant l'homme ou la femme idéale, le travail qui paye le mieux, ou peut-être le sport qui arrivera à les motiver suffisamment pour leur faire oublier leur soif. Alors, en sortant, n'hésitons pas à bouger avec la parole. Alors Jean a quitté son bienheureux désert, son lieu de formation, son lieu de préparation, son lieu d'écoute de la parole, pour aller à la rencontre des foules. Et pour ça, il choisit un intense lieu de passage, de brassage, le gué du fleuve. C'est une espèce d'entonnoir, l'endroit où tout le monde doit passer, est obligé de passer, un goulot de grande circulation humaine, le gué de Béthanie, sur la rive droite du Jourdain, à l'est de Jéricho. Et en fait, vous savez, c'est là où les Anglais, en 1918, ont construit le pont Allenby, le seul lieu de passage vers la Jordanie, c'est là, entre Israël et la Jordanie. Bref, est-ce que moi aussi, comme Jean-Baptiste, je recherche le contact, après avoir entendu la parole de Dieu, après l'avoir reçue, après l'avoir méditée, après qu'elle m'ait parlé, après qu'elle m'ait nourri? Une question en tout cas que nous pose ce passage. Il proclamait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Alors on devrait en fait traduire les trois mots grecs que Luc a choisis. Il criait un plongeon de retournement. Ou encore mieux, selon la version Chouraki, il proclame l'immersion du retour. Elle est belle cette formule. Le porte-parole de Dieu n'est pas un petit bonhomme qui est là, tranquillou, dans son coin. Non, c'est une espèce de haut-parleur dont on a poussé le volume au maximum. Et d'ailleurs, c'est ce que signifie le mot kérigme. C'est un cri, une proclamation, l'annonce de l'Évangile. Est-ce que ma vie crie quelque chose ? Et si elle crie, qu'est-ce qu'elle crie ? Jean-Baptiste, lui, criait l'immersion du retour. Moi, qu'est-ce que je crie ? Alors moi, l'immersion du retour, c'est une expression que j'aime bien parce que c'est à la fois l'idée du baptême, bien sûr, mais c'est aussi une référence à la sortie d'Égypte, quand cette immersion du peuple esclave lui a permis de trouver derrière la liberté et le salut. Jean-Baptiste dit à ceux qui l'écoutent qu'il faut se retourner vers Dieu et faire le plongeon en lui. Est-ce que je fais régulièrement ce retour, ce plongeon, parce que c'est ça dont la vie est faite, la vie avec Dieu ? Et c'est pourquoi cet appel se renouvelle pour nous aujourd'hui, à l'approche de Noël. Il proclamait le baptême de retour pour le pardon des péchés. Le pardon, cet acte de Dieu offert à tous, mais qui ne peut devenir efficace que si nous l'accueillons librement. Le soleil ne cesse jamais de briller, il brille pour tous, pour tous les hommes, mais nous pouvons décider de fermer nos volets. Nous pouvons refuser d'accueillir cette lumière qui vient vers nous, parce que nous sommes libres. Et c'est sans doute pourquoi Jean-Baptiste nous invite et nous encourage à nous préparer à sa venue. Préparer le chemin du Seigneur, à planisser ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Alors, c'est un peu comme chez nous, lorsqu'un chef d'État se déplace, déjà au temps de Jésus, on avait déjà coutume, lors des visites officielles, de remettre en état, de déblayer, d'arranger, de préparer, de décorer les rues par lesquelles le chef d'État devait passer, un prince ou un roi quelconque, ou là où il devait entrer dans une ville, c'était déjà comme ça. Alors peut-être que ça pourrait juste nous aider à saisir le sens de la préparation que Jean-Baptiste nous invite à faire en nous citant Ésaïe. Ici, il s'agit de préparer nos cœurs à recevoir ce roi qui arrive et qui veut y entrer. Et avec lui, le royaume de Dieu. Royaume de Dieu dans lequel il nous invite à vivre, il nous invite à grandir, à croître, à nous épanouir. Et bien sûr, royaume de Dieu qui est toujours présent.